Oui, donc je suis Xavier Flinois, représentant de la FNSEA au Césaire des Hauts-de-France.
Alors, on entend beaucoup parler de l'eau en ce moment, on parle de sécheresse, de problèmes dans le monde. C'est un sujet qui préoccupe de plus en plus de personnes.
Oui, bien sûr. Bah, il faut savoir qu'il n'y a pas d'alimentation sans eau. Il n'y a pas de production agricole sans eau, donc on est relativement inquiet de voir les évolutions climatiques qui font qu'on a des sécheresses qui sont quand même de plus en plus récurrentes. Et donc on essaye de réfléchir un petit peu comment on peut produire, parce qu'il y a évidemment des besoins en production, en faisant des économies d'eau. Et donc il faut qu'on réfléchisse assez rapidement, parce qu'on voit que les choses s'accélèrent d'un point de vue du climat, pour arriver à produire dans les meilleures conditions les produits de qualité, en quantité. Donc c'est pas évident, ça demande que chacun réfléchisse en fonction de ses compétences, à la fois sanitaires, à la fois agronomiques, hein, pour essayer d'avoir une agriculture française qui soit performante, et aussi économe, à la fois dans l'eau, mais en produits chimiques.
Voilà. Alors, il y a une vingtaine d'années, on ne se posait pas trop la question, on arrosait, tout ça. Maintenant, on voit que même le préfet donne des consignes de limiter la consommation, l'exploitation de l'eau.
Oui, on n'avait pas trop de problèmes il y a une vingtaine d'années, c'est vrai. On pensait que les réserves étaient illimitées. On sait aujourd'hui que non, ce n'est pas tout à fait le cas, et qu'il faut réfléchir d'avoir le plus d'intelligence possible dans la production. Et donc on se met autour d'une table avec les gens qui ont les compétences, et on essaye de faire progresser la façon de produire.
Donc dans la région Hauts-de-France, on a une agriculture qui est assez diversifiée, on peut dire ça, mais avec un besoin d'eau qui est assez important.
Alors c'est une agriculture qui est historiquement productive. Depuis des siècles, on est dans une des régions où il y a la plus forte, production dans bien des domaines. On est premier en betterave, on est premier en pommes de terre, on est premier dans les légumes de conserve. On produit également beaucoup de céréales, on a moins d'élevage. Et s'il y a une production, c'est aussi parce qu'il y a des besoins. On fournit en quantité, en qualité et à des prix raisonnables, parce qu'on se rend compte aussi aujourd'hui qu'il faut maintenir des prix alimentaires qui soient à la portée de tous. Et c'est à ça qu'on s'attelle.
Alors, par rapport à d'autres régions de France, vous êtes en contact avec d'autres chambres d'agriculture, d'autres régions? Est-ce qu'ils ressentent les mêmes difficultés? Est-ce qu'ils ont les mêmes solutions?
Il y a autant d'agriculture qu'il y a d'agriculteurs, mais il y a des agricultures très différentes entre les régions. On a déjà des sols qui sont très différents, on a des climats qui sont très différents. On a la chance en Hauts-de-France d'avoir des sols profonds. C'est un très gros avantage, parce que les sols vont stocker de l'eau, les sols vont stocker du carbone, et donc on peut aussi tirer des enseignements des pratiques qui sont faites dans les régions où ils ont l'habitude de manquer d'eau. Et il faut essayer de voir un peu la façon dont ils travaillent également pour l'appliquer chez nous.
Alors, il y a des régions qui ont choisi de capter l'eau en amont de certaines exploitations, on va dire. Et l'histoire des méga-bassines, ça vous inquiète, ce phénomène?
Alors, ce qui nous inquiète surtout, c'est le manque d'eau. Alors, il faut mettre sur la table un petit peu tous les moyens qu'on aurait de compenser ce manque d'eau. On sait que les nappes phréatiques ont leurs limites. Et nous, ce qu'on voit également, c'est que les fleuves et les rivières de nos régions emmènent des mètres cubes et des millions de mètres cubes dans les mers. Et on se pose la question, est-ce que cette eau douce qui part dans les mers, est-ce qu'on ne pourrait pas en capter une petite partie pendant l'hiver, quand les fleuves sont bien chargés, pour pouvoir les réutiliser au printemps et en été, mais évidemment sous certaines conditions. Et on compte sur les scientifiques pour voir est-ce que c'est possible, dans quelles conditions. Il ne faut pas avoir d'a priori sur aucun sujet. Si on nous dit que ce ne sera pas possible, eh bien on essaiera de trouver d'autres solutions, mais il ne faut pas exclure certaines solutions pour des a priori.
Donc dans la région, il y a différents types d'agriculture, certaines plus intensives que d'autres. Est-ce que l'agriculture intensive est plus problématique que les petites propriétés?
Chacun, je vais dire, l'agriculture répond à des besoins. Il y a des besoins de proximité pour certains, il y a des besoins de produire en volume dans d'autres secteurs. Vous prenez un secteur comme le sucre, par exemple, eh bien, je vais dire, la production de betteraves ne peut se faire que de façon industrielle. Et donc, je vais dire, on a eu un développement depuis un siècle ou deux des sucreries. Vous prenez d'autres productions actuellement, c'est la production de frites, qui est un peu le vent dans le dos dans notre région. On nous demande de produire toujours plus de frites parce qu'il y a une demande du consommateur. Eh bien, il faut adapter nos exploitations, nos sols, à pouvoir répondre à la demande du consommateur également.
Donc, dans les cahiers des charges des implantations production de frites, il y a parfois des chiffres qui ne reflètent pas la réalité et on demande à ces entreprises, avant de s'installer, de bien vérifier leurs données pour que ce soit conforme aux exigences en termes d'environnement notamment. Est-ce que pour l'agriculture, vous avez également des cahiers des charges à respecter en Hauts-de-France qui sont spécifiques à la région ?
Ah, bien sûr. Chaque exploitation a un cahier des charges. Il y a des réglementations qui sont quelquefois pléthoriques. Quelquefois, pour un seul domaine, comme par exemple celui de l'eau, c'est le code de l'environnement, c'est le code de santé publique, c'est le code rural, c'est le code des collectivités locales. Donc, je vais dire, faut aussi quelquefois que les réglementations se simplifient pour qu'on y comprenne quelque chose. Parce qu'il y a des domaines sur lesquels on accumule et on accumule et on accumule des réglementations à ne plus comprendre quels sont les objectifs.
Donc c'est vrai que l'eau, pour n'importe quel habitant, n'importe quel citoyen, j'allais dire, c'est nécessaire, c'est forcément vital. Est-ce que tous les citoyens, tous les habitants des Hauts-de-France, voire même de France, ont une garantie d'accéder à l'eau et à une eau de qualité ?
Pour nous, c'est essentiel. Je veux dire, notre métier, c'est de nourrir les gens. Je veux dire, dans la nourriture, il y a l'eau, évidemment. Alors nous, on veut produire des produits de qualité, d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue gustatif, mais je veux dire, ça ne peut pas le faire, je veux dire, en polluant l'eau et en la rendant non consommable. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on paye un siècle de développement d'une agriculture où on a toujours respecté des règles, mais les règles n'étaient peut-être pas adaptées à une situation parce qu'on ne connaissait pas bien les conséquences de pratiques qui étaient acceptées à l'époque. Alors aujourd'hui, ces pratiques ont évolué, mais moi-même, il y a une semaine, j'ai été contrôlé par l'administration. Et il y a un cahier des charges qui est très précis sur la manière d'utiliser les produits phytosanitaires, les dates, les volumes, tous les combien on peut revenir, etc. C'est très complexe et je vais dire, on applique ces réglementations-là.
Voilà, donc je sais que dans certains endroits, par exemple la région de Lens, les nappes phréatiques sont impactées avec les problèmes des obus qui ont éclaté durant la guerre 14-18. Est-ce qu'aussi dans les produits phytosanitaires, on les retrouve 10, 20, 30 ans après dans ces nappes hein ?
Alors nous ne sommes pas des scientifiques. Il faut laisser, je dirais, chacun dans son domaine de compétences. Nous utilisons des produits qui ont reçu des homologations à la fois nationales et européennes. Et ce que l'on utilise, ce sont des choses qui sont autorisées. Je vais dire, on ne peut pas nous imputer une responsabilité sur peut-être des erreurs qui ont été faites à certaines époques. Je veux dire, c'est un peu comme la ceinture de sécurité. Quand vous prenez une vieille voiture, elle n'appelle pas de ceinture de sécurité. Aujourd'hui, on a révisé les réglementations. Ça a été la même chose dans l'agriculture. Et on applique les règles d'aujourd'hui.
Voilà, on pourrait faire toute une discussion aussi sur tous ces produits que vous utilisez, qui ont pour certains été dénoncés hein, comme étant potentiellement dangereux, qui ne sont pas tous retirés du circuit. On voit bien à la Martinique pour les bananes ce qui s'est passé. Il y a quand même une responsabilité sociétale pour l'agriculteur qui utilise ces produits.
L'agriculteur, est-ce qu'il avait la connaissance l'agriculteur n'est pas un chimiste. Hein. L'agriculteur utilise un produit qui était autorisé à l'époque. Je vais dire, aujourd'hui, il est de la responsabilité d'un agriculteur d'avoir chez lui et d'utiliser chez lui un produit autorisé à la dose autorisée, à une date autorisée. Voilà. C'est notre responsabilité. Passer tout en bio, pour l'instant, nous n'imaginons pas que ce soit possible. On l'espère à terme avec des progrès, par exemple en termes génétiques, en termes de robotique, en termes de data, qui feront que demain, on n'aura peut-être plus besoin de pesticides. Et on saura que le XXe siècle aura été une période dans l'histoire de l'agriculture où on a utilisé la chimie. Mais demain, je veux dire, le souhait de beaucoup d'agriculteurs, c'est quand même de ne plus avoir besoin de ce genre de produits. On les utilise de façon contrainte, hein, ils nous rendent bien des services. On l'a vu aussi, par exemple, que l'agriculture bio, ce sont des charges supplémentaires en main-d'œuvre, par exemple, en traction. Il faut passer beaucoup plus de fois dans les terres pour pouvoir faire le même travail que celui qui est fait par la chimie. On voit aujourd'hui qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Et le risque aussi, c'est si on passe trop d'agriculture en bio, eh bien on n'aura pas en face la clientèle, parce que la clientèle n'est pas extensible pour l'instant, parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, et il faut que l'agriculture s'adapte à la demande.
Une dernière question par rapport à l'export. Il y a beaucoup de pays qui manquent d'eau et qui manquent aussi de vivres pour nourrir leur population. Est-ce que la France, notamment la région Hauts-de-France, exporte, enfin, vers ces pays-là ? Est-ce qu'il y a des accords de solidarité ?
Il y a des accords qui dépassent le cadre, je vais dire, de la responsabilité des agriculteurs. On exporte, alors on exporte évidemment beaucoup de céréales vers le Moyen-Orient. Je vais dire, vous savez, moi je me rappelle dans ma jeunesse, il y avait 3 milliards d'habitants, il y avait à peu près 1 milliard qui avait des difficultés pour se nourrir. Aujourd'hui on est passé à 7-8 milliards, il y a toujours 1 milliard d'habitants qui ne se nourrissent pas à leur faim. On sait aussi que ce n'est pas toujours un problème de quantité produite qui fait qu'il y a de la famine. Il y a aussi les guerres qui provoquent de la famine. Et puis l'agriculture aussi essaye d'organiser justement pour ceux qui ont des difficultés à se nourrir par l'intermédiaire de dons et d'accords avec des associations pour aider ceux qui ont du mal à se nourrir.
La région est partenaire d'autres régions dans le monde. Est-ce que vous suivez ça un petit peu
de... Partenaire à quel niveau
Par exemple avec des régions en Pologne ou des régions... Il y en avait en Afrique, etc.
Oui, mais je vais dire, tout ce qui est international est quand même assez perturbé actuellement. Hein. Le marché du blé avec deux acteurs principaux qui sont en guerre l'un contre l'autre a provoqué des sursauts dans les marchés. Donc c'est vrai que c'est assez perturbant. On sait aussi que nous sommes contraints par l'utilisation d'engrais d'utiliser beaucoup de produits dont les prix s'accordent avec ceux du pétrole. Donc c'est assez perturbant actuellement la situation sur les marchés internationaux, à la fois de l'énergie, des céréales. On vit dans une période assez compliquée.
On peut avoir quand même une vision à long terme ?
Écoutez, il faut être optimiste. Je pense que de toute façon, l'alimentation, c'est un besoin primaire. Donc, on aura toujours besoin d'agriculteurs dans le monde. On voit aussi que les relations internationales font qu'aujourd'hui, les gens s'interrogent sur la garantie d'approvisionnement. Donc, avoir des productions à côté de chez soi, c'est une garantie quand même, à la fois quantitative et qualitative.
Oui, là, on parlait de, dans l'industrie de délocalisation à relocaliser. Ici, ça ne se passe pas pour l'agriculture.
Si, ça peut se passer quand même, parce que vous avez des produits qui se conservent, des produits qui se transportent facilement sur des bateaux à travers les océans. Et on est quand même sur un marché au plus offrant, au moins offrant. Il y a des marchés mondiaux, que ce soit celui de la viande, que ce soit celui des oranges, de la laine, des céréales, du soja. Tout ça, c'est contraint par des marchés internationaux.
On ne parle pas beaucoup d'une culture qui est intéressante, le lin en région.
Oui, mais le lin était une culture qui est pratiquée depuis très longtemps. C'était la bordure maritime, hein, de la Normandie jusque Dunkerque, il y avait pas mal de lin, parce qu'il faut des conditions climatiques assez particulières. Et malheureusement, le lin, depuis 3 ans, a subi des aléas climatiques qui font que une partie, par exemple, des productions de lin des Hauts-de-France cette année n'a pas été récoltée. Puisque au moment justement où le lin s'allonge, eh bien, il n'y avait pas d'eau. Et donc les lins ont été trop courts pour une utilisation industrielle. Et les lins sont restés dans les sols. Donc vous voyez, il y a quand même des contraintes. Et là, c'en est une, justement, l'évolution du climat pour une production en particulier.
J'imagine que pour un agriculteur, gérer, c'est prévoir et c'est aussi diversifier ce qu'il produit.
Oui, bien sûr. Mais par ici, vous savez, on a tous des assolements assez compliqués. Hein. On a tous au moins 4 ou 5 cultures dans nos exploitations. Ça permet, comme vous le dites, d'équilibrer les bonnes ou les mauvaises années selon les productions. Ça permet d'équilibrer les calendriers de travail. Et puis, ça permet de faire des assolements et pour résoudre des problèmes comme les problèmes de désherbage, il n'y a rien de tel que d'alterner les cultures.